un podcast France Culture.
Au Louvre, puissant et solennel, un tombeau de chevalier qui ne ressemble à aucun autre impose sa gravité aux visiteurs des salles consacrées à la sculpture du Moyen-Âge. Le grand sénéchal de Bourgogne y apparaît, porté sur son lit funèbre par 8 personnages, presque grandeur nature. Ils sont vêtus d'amples aubes noires, leur visage est dissimulé par de vastes capuchons, et ils arborent sur le côté leurs armes dynastiques. Le défunt, qu'ils soutiennent gravement, est Philippe Pau. Allongé, mais les yeux grands ouverts, casqué, en armure, l'épée au côté, un animal à ses pieds. Le fameux chevalier repose sur une dalle historiée et ce grand monument nous fait deviner peut-être 2 messages assez mystérieux. L'un adressé aux hommes et l'autre destiné au ciel. Essayons d'en percer l'énigme. Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean de Loisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Pour ses contemporains ou pour l'éternité ? Le tombeau de Philippe Pau.
Maintenant que nous sommes devant le silence de ce tombeau et que nous voyons le puissant sénéchal de Bourgogne soulevé par ses compagnons sur cette dalle pesante, explorons le secret de cette grande sculpture, les péripéties de la vie de celui qui l'a commandée, les sources de sa forme inattendue et le sens profond des messages dont il est porteur. Nous serons guidés par Sophie Jugy, conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des sculptures du musée du Louvre. Sophie Jugy, quel est le rôle d'un tombeau d'un personnage aussi considérable que le sénéchal de Bourgogne à cette époque-là, à la fin du XVe siècle ?
Comme pour tout chrétien, c'est une forme d'assurance vers l'au-delà. Si on peut avoir le temps de s'occuper de son tombeau, c'est une bonne chose, parce qu'on sait que rien n'est plus certain que la mort et plus incertain que l'heure d'y celle. Et on sait aussi qu'on se présente devant Dieu chargé de péché. Et donc, il faut à la fois prouver sa foi, prouver son espérance dans la résurrection et solliciter les prières des contemporains. Et puis en même temps, il s'agit de laisser une mémoire, la mémoire de son existence sur terre, de l'histoire de sa famille, afin que nul n'en oublie. Et de toute façon, tous ces tombeaux auraient dû rester en place jusqu'au jugement dernier.
Vous laissez entendre que ce tombeau a donc été présumé, imaginé, souhaité en tout cas par le défunt bien avant sa mort et qu'il l'a contrôlé.
Oui, c'est déjà une démarche relativement fréquente et en plus elle est documentée en l'occurrence puisque Philippe Pau a passé en 1480 un accord avec l'abbé de l'abbaye de Citeaux en Bourgogne pour justement avoir une chapelle, disposer d'une chapelle où il pourrait établir sa sépulture. Donc ça veut dire qu'il avait encore 13 ans à vivre, nous le savons, il ne le savait pas, mais il s'y est pris quand même à l'avance.
Le choix de l'abbaye de Citeaux pour un grand personnage de Bourgogne a beaucoup de sens, semble-t-il.
Alors, ce n'est pas là où sont enterrés les ducs de Bourgogne de la famille de Valois, qui sont ses contemporains, qui sont à la Chartreuse de Champmolles à Dijon. Mais on n'est pas très loin de Dijon et c'est les ducs de Bourgogne de l'ancienne race, hein, les Capétiens, qui sont enterrés à Citeaux. Et puis surtout, l'abbaye de Citeaux, c'est l'abbaye de Saint-Bernard, fondée par Robert de Molesme en 1098, et où est établi l'ordre des Cisterciens, qui est un des ordres très importants de la chrétienté, avec la figure bourguignonne de Saint-Bernard.
Alors, ce tombeau a une forme extraordinaire, on va y revenir, mais peut-être faut-il dire quelques mots de ce sénéchal de Bourgogne, de Filippo, puisqu'il semblerait que ce grand personnage politique, ce grand chevalier aussi, a connu des péripéties qui étaient liées à la situation politique de la Bourgogne à cette période.
Oui, en effet, c'est le membre d'une famille qui est au service des ducs de Bourgogne, comme officier à la cour. Et lui-même, il s'appelle Philippe parce qu'il est le filleul de Philippe le Bon, qui est peut-être un des plus importants des ducs de Bourgogne. Et donc, c'est un ami d'enfance aussi, d'une certaine façon. Enfin, il a été élevé à la cour comme page. Il a joué un rôle, certes, de chevalier, mais peut-être plus de diplomate au service du duc, rentrant dans les négociations, négociant les mariages.
Voilà, et les mariages qui sont des alliances.
Sont des alliances politiques. Il a ce rôle de conseiller, il est au conseil du duc, et donc il est mêlé aux affaires du duché en permanence. Un personnage très important pour ça.
Sur la grande dalle, le lit funéraire, au fond, de Filippo, tel qu'il est sur le tombeau, est gravé, historié, un récit.
Si Domora, messire Filippo,
sénéchal de Bourgogne,
qui fut nourri en l'hôtel de Monseigneur le bon duc Philippe, lequel le fit chevalier, et fut parrain, dit celui, et par l'élection des chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or, et la lui donna et mit au col. Après la mort de son maître, il fut retenu par Monseigneur le duc Charles, son fils, en son service, qui lui laissa tous les offices dont il le trouva en possession. Après la mort de celui-ci, il fut par le commandement de Mademoiselle de Bourgogne, qui pour lors était dame des dix lieux, mis hors de la ville de Lille, et elle le força à se retirer en la ville de Tournai. Alors, le roi l'envoya quérir, et le voulut avoir en son service, lui fit de grands biens, et lui ôta la dite ordre qu'il portait, en lui faisant cet honneur que de lui donner la sienne, et le créa grand sénéchal de Bourgogne. Il trépassa un jour du mois de septembre de l'an 1493.
Voilà ce qui est écrit sur la dalle, en tout cas un extrait de ce qui est écrit sur cette dalle, qui donne la sensation d'être une biographie et peut-être, Sophie Jugy, une justification.
Et peut-être une autobiographie. Il est possible que ce soit Filippo qui ait préparé ce récit. Mais en effet, Filippo a été confronté à une question de fidélité qui se posait à la fin de la période bourguignonne. Donc rappelons que le duché de Bourgogne a été donné en apanage par Charles V à son frère Philippe le Hardi, ensuite passé en succession à Jean sans peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, avec des moments où tout se passait bien avec le royaume de France et des moments où ça se passait mal, en particulier pendant la guerre de Cent Ans avec cette alliance anglaise. Et puis, à l'époque de Charles le Téméraire, on a quand même un duc qui est un personnage très compliqué et très entreprenant, qui rêve d'être roi lui aussi. Et de l'autre côté, du côté français, on a Louis XI qui veut, au contraire, abattre la puissance des ducs de Bourgogne qui menacent le royaume et récupérer la Bourgogne. Parce qu'un apanage se transmet d'homme en homme. Charles le Téméraire n'a qu'une fille, Marie de Bourgogne, et donc, à sa mort, le duché doit revenir à la France, au royaume de France. Donc, quand Charles le Téméraire meurt à la bataille de Nancy en 1477, il y a vraiment partage de l'opinion publique entre une alliance française, le roi de France qui va prendre possession de la Bourgogne, et cette fidélité à la duchesse de Bourgogne, ce qui va faire aussi l'origine du conflit qui va régner pendant plusieurs siècles entre la France et les Habsbourg, puisque Marie de Bourgogne va épouser Maximilien de Habsbourg. Donc, que faire ? Alors, il raconte effectivement cette hypothèse quand il était seigneur du château de Lille, où il a été mis dehors par les bourgeois de Lille, qui en ont parlé à Marie, qui ont émis des doutes sur sa fidélité au roi. Donc, je ne sais pas où il en était à ce moment-là réellement. Mais enfin, en tout cas, il a été chassé de Lille. Donc, il va aller là où se trouve le roi, qui va lui ouvrir grand la porte et essayer de récupérer. Parce que
et qui gagne aussi un grand ambassadeur et du coup l'adhésion d'une partie de la Bourgogne.
Voilà, et qui va le nommer grand sénéchal de Bourgogne, c'est-à-dire le représentant du roi dans la région. Mais évidemment, c'est un problème dans une société féodale, surtout avec la cour de Bourgogne qui a beaucoup développé l'imaginaire de la chevalerie, donc l'imaginaire de la fidélité. Un vassal doit rester fidèle à son seigneur, surtout quand le seigneur vous a couvert de bienfaits et vous a fait chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Donc ça, c'est la couche suprême de fidélité auprès du duc. Que faire si vous êtes devenu le serviteur d'un autre souverain comme le roi de France ? D'où eh bien, donc la déchéance de l'ordre de la Toison d'Or, compensée par l'octroi de l'ordre de Saint-Michel, qui est l'ordre royal français.
Par le roi lui-même. Revenons à notre tombeau et je vous propose, pour s'en rapprocher à nouveau, la citation d'un très beau texte d'Émile Malle.
On ignore le nom de l'étonnant artiste qui imagina, vers 1480, le tombeau de Philippe Pot, autrefois à Cîteaux, maintenant au Louvre. Les pleurants, élevés à la stature humaine, sont devenus des porteurs funèbres. Ils ont sur l'épaule la dalle de pierre où repose le sénéchal de Bourgogne, revêtu de son armure. Ce sont 8 parents, tous de noble maison, car chacun d'eux porte un écu qui indique une alliance. Ils marchent d'un pas lourd, accablés par ce mort qui pèse sur leur épaule, mais qui semblent peser encore plus sur leur cœur. Rien de plus réel, rien de plus solide que ces 8 chevaliers, massifs comme des piliers romans, et en même temps, rien de plus mystérieux. Ces grandes figures voilées de noir, épouvantent, comme des apparitions nocturnes. Assurément, elles ne sont pas de ce monde. Envoyées par la mort, elles se montrent un instant, mais elles vont s'évanouir bientôt et rentrer dans le pays des ombres.
Solennel, splendide, comme une scène de théâtre, ce tombeau très original, semble-t-il, est une forme nouvelle et pas tout à fait pourtant. Sophie Jugy, qu'en pensez-vous ?
Alors en effet, le thème des pleurants autour d'un tombeau n'est pas un thème nouveau. On le voit apparaître en France au milieu du XIIIe siècle. Et il s'agit effectivement de rendre en quelque sorte permanent la procession qui accompagne le défunt au moment de ses funérailles vers son tombeau. Il y a un précédent très important qui est celui du tombeau de Philippe le Hardi puis du tombeau de Jean sans Peur, où les pleurants se trouvent contre le coffre lui-même du tombeau et sont des petites figures d'Alba d'une quarantaine de centimètres, mais qui semblent effectivement reconstituer la cérémonie des funérailles, quelque chose de très précieux et un tombeau qui a coûté extrêmement cher et qui a été extrêmement prestigieux. Et là, on a quelque chose de complètement différent, complètement unique, c'est-à-dire que ces petits pleurants qui sont intégrés à l'architecture sont devenus en quelque sorte les supports même de la dépouille, comme effectivement la reconstitution d'une cérémonie de funérailles.
Ce qui veut dire que ces pleurants ne sont pas engagés contre le tombeau, ils sont dégagés et portent le lit funèbre, et ce sont des personnages presque grandeur nature.
Voilà, alors ils font 1m40.
Oui, presque grandeur nature, alors que Philippe Pot lui-même est un petit peu plus grand que nature.
C'est ça, un petit peu plus grand. La dalle où il repose fait 2m60. Donc il est sur la tête sur un coussin, les pieds sur son chien fidèle, mais l'ensemble quand même un petit peu plus grand que la taille humaine. Et on le voit, enfin quand on est de taille normale, on est à peu près à la hauteur du profil de ce du personnage, on ne le voit pas d'en haut. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que justement, ces pleurants sont véritablement des éléments des funérailles princières, ou enfin de personnages importants. On voit très bien dans les contes du duc de Bourgogne que on achetait du tissu et on faisait réaliser ces grands manteaux et les capuchons qui couvrent les épaules et la tête, et qu'ainsi toute la cour était vêtue de deuil pour suivre le tombeau.
Écoutons le descriptif de la cérémonie funéraire du duc de Bourgogne auquel a assisté certainement Philippe Pau.
Quinze cents draps noirs étaient taillés et découpés de la part du duc pour revêtir de deuil les serviteurs de la maison, tant de celui qui gisait en bière que de celui qui entrait en règne, Charles le Téméraire. Chaque chevalier ou écuyer, chaque homme noble de nom et d'état, avait une longue robe et un chaperon de drap fin, depuis le chancelier jusqu'au dernier secrétaire. Chacun avait pareillement sa robe longue, et tous les officiers subalternes, comme des gens de condition plus basse, des robes à mi-jambes qu'on ne pouvait dénombrer. À l'infini, on voyait des gens porter le deuil, et on ne voyait que des robes noires dans Bruges.
Ces pleurants ou ces deuilleurs, on les appelle des deux façons parfois, ne sont donc, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, pas des moines, mais peut-être des civils, vous allez nous le dire, Sophie Jugy, et ils participent de cet immense cortège dans lequel toute une ville est vêtue de noir en signe de deuil.
Oui, c'est ça, et puis surtout, selon son état, on nous parle bien des manteaux longs pour les grands personnages, des manteaux courts pour des gens plus ordinaires. Non, s'ils étaient religieux, les religieux, ils suivaient avec l'habit de leur ordre. En plus, si ça avait été des moines de Cîteaux, ils auraient été en blanc, l'habit des cisterciens. Ce sont bien les gens de la cour revêtus du manteau noir.
Qui portent donc le sénéchal. Et cette conception, qui a été donc présumée, préparée par le défunt, le présente lui-même les yeux ouverts. Est-ce que ce n'est pas étrange ?
Non, c'est tout à fait normal, parce qu'en fait, on représente les défunts, c'est tout à fait courant au Moyen-Âge, dans le moment de la résurrection, en fait. D'où les mains en prière, et d'où les yeux ouverts sur la vision béatifique. C'est pas du tout les gens morts qui sont représentés, c'est vraiment les gens au moment de la résurrection.
Donc le sénéchal est auprès de Dieu, il vient de ressusciter, il est néanmoins porté par ses compagnons. Et un sculpteur, un architecte, un maître d'œuvre a dû dessiner cela et le faire exécuter. Comment se passe le chantier ?
Alors forcément, il y a un sculpteur, mais nous n'avons pas du tout de renseignements. Donc c'est plutôt une déduction d'historien, à la fois ce que nous savons de la sculpture à Dijon dans les années 1480 et une analyse stylistique. Donc au moment où la Bourgogne est devenue française, en quelque sorte, est resté en place les sculpteurs qui étaient actifs dans cette ville-là, et en particulier Antoine le Moiturier, qui avait été l'un des réalisateurs du tombeau de Jean sans peur. Et donc on le voit travailler pour une clientèle privée, parce qu'il apparaît par exemple dans les rôles des impositions, ou d'ailleurs il se plaint de ne pas gagner sa vie. Et on sait d'ailleurs qu'en 1495, il va partir à Paris parce que réellement il n'a plus de quoi gagner sa vie à Dijon. Donc potentiellement, Antoine le Moiturier est là. Et Antoine le Moiturier, ça peut fonctionner aussi d'un point de vue stylistique. La chose a été disputée, parce que ce que nous avons sous les yeux, c'est quand même un tombeau qui a eu des malheurs et souffert à partir du moment où l'abbaye de Cîteaux a été détruite, où le tombeau a été d'ailleurs le seul tombeau conservé au moment de la Révolution et de la saisie des biens du clergé, où il a été à Dijon, est arrivé dans une collection particulière, exposée pendant plusieurs années dans le jardin d'un hôtel à Dijon. Enfin, en tout cas, pendant longtemps, il a été à l'extérieur, il a été restauré, certainement dans les années 1850-60. Et en tout cas, ce qu'on voit en particulier, ce que les gens regardent au Louvre, c'est-à-dire en se penchant les visages des pleurants, on voit très bien que c'est une réflexion du 19e siècle. Voilà, donc il y a un côté un petit peu chamboulé qui a fait douter. Cela dit, moi, je pense. Aussi parce que la connaissance des historiens a beaucoup progressé ces dernières années sur la compréhension de la personnalité artistique d'Antoine Lemoiturier, que ça peut bien lui être attribué.
D'abord, Antoine Lemoiturier est-il dans la tradition de la grande sculpture bourguignonne ? On pense évidemment à la sculpture très expressive de Klaus Schlüter.
Alors, pour une part, oui, mais pour une part, c'est aussi un sculpteur qui a été formé en Provence. Il est avignonnais et il apporte incontestablement une manière de faire un petit peu plus, on va dire, prismatique, un petit peu plus géométrique, des types de visages aussi un peu particuliers. Mais ce qu'il y a de dans la tradition, c'est quand même cette espèce d'exactitude assez extraordinaire et un peu hyper réaliste qu'on a un petit peu perdu parce que malgré la restauration qu'on a fait en 2018, on a des couleurs un petit peu affaiblies. Mais moi, je pense que le tombeau avait des couleurs très très vives et que ça devait donner une impression de grand réalisme. Et donc, on a parlé des pleurants, mais il y a aussi les armoiries qu'il porte ou le costume héraldique de Filippo.
Filippo porte sur son armure ce qu'on appelle un tabard, c'est-à-dire une sorte de grande blouse héraldique où on voit l'écartelé de sa famille.
Voilà, on voit les armoiries qu'il portait. Évidemment, les carnations naturelles, l'armure qui était argentée, un certain nombre de rehauts d'or. Et ce qui apparaît couleur pierre, c'est-à-dire la dalle, en fait, était peinte en noir, imitant sans doute les dalles de marbre noir qui sont le summum du luxe dans les tombeaux de la fin du Moyen-Âge.
Autour du corps de Filippo, les personnages portent des écus sur leurs épaules. De quoi s'agit-il et quel est le message ?
Alors, ils sont huit, et donc on a huit écus, en quelque sorte, parallèles aux huit arrière-grands-parents de Filippo, c'est-à-dire que là, il nous offre son arbre généalogique avec ses huit quartiers de noblesse, d'une certaine façon. Dans cette société, évidemment, féodale, chevaleresque, il est très important de prouver la noblesse et l'ancienneté de sa maison. Donc, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on a les armoiries peaux de son arrière-grand-père et, en fait, on a une répétition avec les armoiries de son grand-père, Régnier Pau, qui, étant un chevalier vaillant, avait été comparé au chevalier personnage littéraire Palamède, et il avait écartelé son écu familial de l'écu mythique, littéraire, peut-on dire, de Palamède, racontant effectivement ses batailles contre les Sarrasins, d'où les cimetières qui sont dans cette partie des armoiries. Et c'est devenu, en fait, les armoiries de la famille aux générations suivantes.
Régnier Pau a été donc prisonnier, prisonnier par les janissaires.
Après la bataille de Nicopolis.
Et le sultan lui a demandé de faire une épreuve, épreuve particulière selon la légende.
Il voulait qu'il se convertisse à l'islam. Et évidemment, Régnier Pau ne voulait pas, donc il a été envoyé combattre un lion et il en a triomphé. Et donc il s'est attiré l'estime du sultan et il a été ainsi libéré. Et donc en quelque sorte, ces vertus de Régnier Pau rejaillissent sur Filippo. Et d'ailleurs, la légende entretenue à l'abbaye de Cîteaux a un petit peu confondu les deux personnages. On en a raconté que Filippo s'était battu contre un lion.
Est-ce qu'il y aurait une influence du théâtre médiéval, si je puis dire, comme on peut le voir dans les mises au tombeau du Christ dans la région?
Alors, j'ai effectivement proposé une comparaison avec la mise au tombeau de Saumur en Aussoy qui est attribuée à Antoine Lemoiturier. Mais ça, c'est plus formel sur la sculpture, c'est-à-dire il y a un rythme des drapés, un rythme des mains, de l'expressivité qui me semble assez proche. Et je pense que, d'une certaine façon, ce tombeau si étonnant et si novateur, il met les spectateurs un peu comme en face d'une mise au tombeau qui montre l'enterrement du Christ à la même échelle que vous et de manière réaliste, toujours parce que la polychromie est réaliste. Et cette mise au tombeau, ça a été très bien montré par Émile Malle, s'inspire évidemment du théâtre et des mises en scène médiévales.
Alors il y a un élément qui nous manque et qui sans doute était très important pour la compréhension du tombeau, c'est les peintures qui entouraient dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Cîteaux le tombeau lui-même.
Oui, parce qu'on a des descriptions. Alors, en choisissant Cîteaux, Filippo Pau a été très bien inspiré. Non seulement il y avait les moines, mais il y a aussi eu les érudits qui ont fait régulièrement des descriptions. Et on sait que les murs étaient peints avec, là, à nouveau, les armoiries de Filippo. Et sa devise, tant elle vaut, elle, c'est la Vierge.
Aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre de la sculpture. À l'époque, est-ce que ce tombeau était là aussi pour réclamer aux passants, aux moines, aux cérémonies, des prières pour le défunt.
Oui, d'abord, c'est organisé, parce que quand vous faites une fondation de chapelle, vous fondez également des messes. Vous savez que les moines vont prier, il y a ce qu'on appelle les obituaires dans les monastères, où on sait que jour après jour, il faut prier pour tel ou tel personnage qui est enterré. Et puis, il y a effectivement l'appel direct qui est porté par l'inscription. Il faut prier pour l'âme du défunt. Et cette inscription était d'ailleurs reprise sur une espèce de panneau. Voilà, on était fortement sollicités. Alors après, on est quand même dans une église monastique qui n'est pas non plus ouverte tout le temps à tout un chacun. Ce n'est pas une église paroissiale.
Les deuilleurs autour du tombeau de Filippo, ceux qui supportent le sénéchal, sont attristés par la situation. On sent dans la courbure de leur tête cette peine. Le visiteur peut-être aussi est impressionné ou bien lui-même attristé. Comme s'il y avait un appel à la prière pour favoriser la résurrection du sénéchal. Comme si la conception du ciel, la conception théologique de l'époque, accordait une importance très déterminante aux prières et à la peine des vivants pour accompagner l'âme du défunt.
Oui, à la fin du Moyen-Âge, les fidèles les gens qui ont le temps de se consacrer à leur vie spirituelle ont une extrême peur finalement de la mort et du jugement dernier. Donc on a établi ce que Jacques Schiffolo appelait la comptabilité de l'au-delà autour du thème du purgatoire. Si vous mourrez, vous n'allez pas directement en enfer, vous allez attendre le jugement dernier. Et donc le purgatoire, c'est quand même un endroit où on peut essayer de racheter ses péchés. Et on peut les racheter évidemment par les bonnes œuvres du temps de sa vie, et on peut les racheter aussi justement par les intentions de prière et en suscitant la prière.
Et donc notre conversation aide probablement le sénéchal à quitter le purgatoire et à rejoindre celui qui lui permet la résurrection. Et nous comprenons deux aspects très importants. C'est un tombeau qui lui rend justice du point de vue terrestre. Il n'a pas trahi, il a simplement accompagné la Bourgogne au mieux qu'il le pouvait. Et les prières des fidèles vont l'accompagner pour sa résurrection. Merci Sophie Jugy.
Merci.
Ainsi sont éclaircies les interrogations que nous partagions sur les significations de ce tombeau, chef-d'œuvre de la sculpture bourguignonne réalisé par Antoine le Moiturier. Un tombeau politique destiné à prouver la fidélité du grand sénéchal au duché de Bourgogne en dépit de son alliance au roi de France Louis XI. Un tombeau dynastique montrant l'illustre lignée dont le sénéchal est issu. Et enfin, un témoignage de sa foi et un appel aux prières pour hâter sa résurrection.
L'important est que la légende existe.
Chef-d'œuvre en vie, une collection de Jean Deloisy pour le Musée du Louvre et France Culture.
Cet épisode a été consacré au tombeau de Philippe Pau, grand sénéchal de Bourgogne, réalisé pour l'abbatiale de Citeaux à la fin du XVe siècle. Merci à notre invitée Sophie Jugy, directrice du département des sculptures du Musée du Louvre. Lecture des textes, Clotilde M et Michel Esco. Réalisation Céline Terce. Prise de son, Éric Boisset et Antoine Viossa. Coordination, Camille Renard et Élodie Piel. Recherche, les équipes du Musée du Louvre. Une série à retrouver sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.